Paix sur toi, j'interromps cet épisode juste extraordinaire pour t'annoncer que je fais une conférence historique le 7 septembre à l'Olympia. Tu as bien entendu, dans la salle mythique de l'Olympia, le 7 septembre 2024. Pour nous rejoindre, j'ai mis le lien sous cet épisode. Rejoins-nous vite et rapidement parce que les places sont limitées. Ça va juste être extraordinaire et on va parler de mémoire et surtout comment ta mémoire est illimitée. Je compte sur ta présence. À très vite.
J'espère que les gens qui nous écouteront, qui veulent se lancer, se diront, ok, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas fait 50 épisodes et c'est au 50e potentiellement. Si la personne est persuadée, il faut le faire jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça pète. Et il y a que comme ça que ça fonctionne. Pour moi, faut pas avoir un talent exceptionnel, faut juste avoir la résilience et avoir la volonté de se dire, ok, il y a un moment où ça va fonctionner, je le sais, et j'attends ce moment, tu vois.
Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Aujourd'hui, vous faites pas de placement de produit, vous monétisez uniquement la création de contenu.
Alors, on a réussi à développer quand même un modèle économique cool, parce qu'on a fait à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc ce qui est quand même pas dégueu. Même si la vocation n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais au moins d'être à l'équilibre, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui bossaient pour le média. En gros, on avait trois leviers de financement. La première, c'est du sponsoring, c'est qu'on a mis en avant à chaque fois, tu vois, un sponsor sur tous nos contenus. Donc dès qu'on avait des interviews, on disait merci à notre sponsor de financer l'émission. Donc là, ça nous permettait de demander du recurring, enfin pardon, du mensuel, un prix mensuel par mois. On a développé des émissions, deux émissions, une qui s'appelait Charabia, qui était un peu le PPMP de l'entrepreneuriat avec
Ah oui, tu l'as
Raïbed
fait
de Papépi.
avec Rabed, non?
Raïbed de Papépi, exactement.
Vous étiez ensemble sur cette émission?
Absolument, on a coproduit l'émission ensemble, absolument.
Et elle existe toujours ou pas?
Non, elle n'existe plus, parce qu'avec Raïbed, on a pris des chemins un peu différents. Donc, il a lancé une émission un peu similaire. Nous, on est en train d'en penser une pour l'année prochaine. Mais voilà, on a fait une première saison qui était incroyable, vraiment enfin, c'était fou. J'invite les personnes qui nous écouteront à les regarder. C'était vraiment, vraiment cool. On en a lancé une deuxième qui s'appelle Second Degré avec Arthur Obeuf de Team For The Planet, que tu connais peut-être. Tu sais qu'il y a un mouvement, en gros, c'est un mouvement de plusieurs milliers de personnes qui cherchent à lever 1 milliard d'euros pour financer 100 entreprises à impact écologique positive. Et on a fait une émission autour de ça qui est vraiment cool, qui s'appelle Second Degré. Et donc ça, c'était le deuxième levier. Et le dernier, c'était les documentaires. On a financé 4 documentaires, dont un qui est assez, enfin, c'est connu, non, mais qui a fait un peu de bruit, qui était sur la Startup Nation, où on part à travers, enfin, sur 4 à 6 mois, en immersion sur une thématique pour en faire un vrai documentaire. Et on en a certains qu'on a vendus à Salto quand ça existait encore. Malheureusement, la plateforme est out là. Mais voilà, donc c'était nos moyens de pouvoir financer la partie média. Donc tu vois, ça avait quand même de la gueule. Enfin, ça a pris quand même pas mal d'ampleur le média. Ouais, donc voilà.
Ouais, je vois ça. Et aujourd'hui, c'est quoi les gros enjeux d'un média? Parce que c'est le financement, je crois, j'ai l'impression que le gros problème, il y a un problème d'argent, parce que pour gagner de l'argent, mais après, en dehors de ça.
Bah, en fait, je pense que t'as trois points importants quand tu veux lancer un média. Déjà, le premier, c'est vraiment de comprendre que c'est dans la durée que ça performera. Tu vois, j'ai lu un article qui disait, je le dis souvent, mais c'est tellement parlant que je le dis autant de fois qu'il le faut, mais c'est que t'as 8 podcasts sur 10 qui s'arrêtent après le troisième épisode. Parce que les gens pensent qu'après 3 épisodes, ah bah, forcément, ça doit exploser, ça doit marcher. En fait, la réalité, c'est que lancer un média qui fonctionne, c'est fastidieux, ça prend du temps, il faut avoir de la patience. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important. Le deuxième point, effectivement, c'est le financier, c'est que quand tu passes du temps, etc., bah, ça coûte de l'oseille, soit du temps, donc c'est quand même une certaine forme d'argent. Donc, soit il faut réussir à être un peu en mode bricole pour que ça coûte pas trop cher, mais se débrouiller pour faire ça dans le temps. Soit c'est être malin et créatif pour réussir à avoir un peu de sous. Et donc je pense que c'est un bon point. Et puis le dernier, qui est plutôt quelle est la grosse force d'un média, pour moi, c'est que tu fédères des gens et que peu importe ce que tu lanceras demain, bah, tu as un groupe de personnes qui te suivent. Et tu vois, si Comédia demain on lance une émission qui va parler, je te dis n'importe quoi, de marque employeur ou de RH, un truc qu'on n'a jamais fait, bah, tu as déjà une audience qui sera réceptive à se dire putain ouais, je suis chaud pour écouter tout ça. Donc en fait, c'est un hack un peu de développement, tu vois, parce qu'au démarrage, tu as déjà des gens qui sont déter pour te suivre.
Et aujourd'hui, toi, vous diffusez uniquement sur YouTube et les plateformes de podcast. Vous n'êtes pas sur ces deux et sur les réseaux sociaux.
Non, on est en vrai, tu vois, nous on a vraiment choisi, et là on est en train d'évoluer un peu, mais c'est LinkedIn à 90%, un peu YouTube, un peu Insta, mais c'est marginal. Vraiment, nous, notre fer de lance, c'est sur LinkedIn, vraiment.
Alors, vous communiquez là, mais c'est-à-dire que votre média communique également uniquement sur LinkedIn.
Ouais, enfin alors on le met partout parce que tu connais, tu vas extraire
Ça.
tes capsules pour les mettre un peu à droite à gauche, mais là où on a capitalisé vraiment, c'est sur LinkedIn, ouais.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, vous connaissez très bien LinkedIn, ça va permettre aux gens qui écoutent et qui veulent se lancer. Qu'est-ce qui marche bien sur LinkedIn?
Alors LinkedIn, ça a quand même bien évolué. Maintenant, on est arrivé un petit peu en précurseur parce qu'il y a 4 ans, c'était vraiment tellement corporate que dès que tu étais un peu créatif, ça faisait la diff, donc c'était lourd. Là, tu as beaucoup, beaucoup de créateurs maintenant qui sont présents. Ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est un super moyen de pouvoir générer du business. Ça, c'est une évidence, parce que c'est le média, enfin c'est le réseau, pardon, B2B par excellence, donc de business. Pour faire la diff, pareil, il faut avoir une logique de se dire, si je me lance, je me lance à minima pour 6 mois avant de me dire est-ce que je continue ou pas. Avant 6 mois, ça ne sert à rien de faire un bilan. Il faut vraiment être très merde, j'ai plus le terme, mais il faut, enfin tu vois, faut se dire, faut être assidu, faut poster entre 2 à 3 fois par semaine pour vraiment imaginer avoir de la performance. Et je pense qu'il faut essayer de voir les tendances globales actuelles et de prendre le contre-pied total. Donc c'est-à-dire que si tout le monde part à droite, je conseille pour pouvoir faire la différence de partir à l'extrême gauche, tu vois,
D'accord.
pour justement essayer de, tu vas, c'est-à-dire que tu plairas pas tout le monde, c'est sûr. Et par contre, tu arriveras à faire un peu la différence parce qu'il y a tellement de poissons qui vont à droite que si toi tu vas à gauche, bah au moins tu t'arriveras à différencier un peu, tu vois. Donc
D'accord. C'est que c'est
voilà.
prendre le moi, c'est vraiment LinkedIn, c'est le réseau, j'ai le plus de mal.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est le réseau où j'ai le moins de performance et après, c'est effectivement. Comme on a le moins de résultats, c'est l'endroit où on met aussi le moins de force, le moins d'énergie. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc là, on a repris là depuis 3 semaines, 1 mois, une nouvelle stratégie où on s'est dit on va poster tous les jours, sauf le week-end, et on va voir pour voir les fruits. Et je veux revenir sur un point sur la régularité. C'est exactement ça par rapport au podcast. Moi, je vais finir la première année. Ça fait 1 an que le podcast existe. Et effectivement, au début, tu galères à avoir des invités. T'as la rigueur, faut lancer un épisode toutes les semaines. Donc des fois t'as la flemme et autres. Et si tu gardes pas cette rigueur, et après, effectivement le podcast il meurt, il meurt. T'en fais et là on commence à voir les fruits, on commence à avoir de plus en plus d'écoute, les vidéos elles fonctionnent. Des fois on fait du physique également. Bon après moi je suis à Montpellier donc je fais beaucoup dans ligne, mais on commence à faire un peu de physique. Et ça donne aussi une force supplémentaire.
Clairement, et puis bah c'est bien ce que tu vois, enfin ton cas, c'est le cas. Enfin, pour moi, c'est ultra parlant et j'espère que les gens qui nous écouteront, qui veulent se lancer, se diront, OK, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas fait 50 épisodes et c'est au 50e potentiellement. En fait, c'est toujours la même logique, c'est que tes 50 épisodes peuvent faire une vue, je te dis n'importe quoi,
Bien
mais
sûr.
ton 50e va en faire 1000 et d'un coup, tout le reste va monter par réciprocité. Donc,
Bien
en
sûr.
fait, il ne faut pas s'arrêter si la personne qui se lance est certaine d'apporter de la valeur parce que les invités qu'elle propose, qu'elle fait inviter, enfin, qu'elle invite sont cool, parce que la qualité du truc est cool, parce que ça c'est créatif. Si la personne est persuadée, il faut le faire jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça pète. Et il y a que comme ça que ça fonctionne. Pour moi, faut pas avoir un talent exceptionnel, faut juste avoir la résilience et avoir la volonté de se dire, OK, il y a un moment où ça va fonctionner, je le sais, et j'attends ce moment, tu vois.
Exactement. Dans ton parcours, à plusieurs moments, tu as dit que tu avais monté des sociétés et à chaque fois, j'ai l'impression que tu as toujours été associé. Tu n'as jamais été seul. Peut-être je me trompe. Qu'est-ce qui fait que tu t'associes à chaque fois? Et pourquoi tu n'as jamais parti seul en disant je vais y aller et me débrouiller?
Ouais, parce que je suis quelqu'un, alors tu vois, ce terme, on me l'a tellement dit quand j'étais à l'école, mes profs me le disaient tellement que ça résonne en moi, c'est qu'on m'a dit que j'étais velléitaire. Tu vois, velléitaire, c'est un terme qui fait vachement. Donc j'avais regardé ce que ça voulait dire velléitaire, et velléitaire, c'est qu'en fait, je pars dans tous les sens, tout le temps. C'est-à-dire que et je travaille à ça et je me suis vachement calmé depuis quasiment 1 an, mais normalement je pars dans tous les sens. C'est-à-dire que je veux me lancer partout, tout le temps. Dès qu'il y a une idée, je dis let's go, on y va, machin. Donc c'est bien parce qu'au moins ça te permet d'être hyper agile, de tout de suite suivre les tendances. Et en même temps, ça te défocus parfois beaucoup. Et pour moi, il faut rester focus là où t'es bon. Tout ça pour te dire que le fait d'avoir un associé, ça a toujours été le cas. C'est qu'en fait, moi, j'arrive avec ce surplus de créativité, et mon associé, parce que je me suis correctement associé, arrive à prendre tout ça et à bien le condenser pour me dire, attends, Harold, va là, on va par ici parce que c'est ça qui sera le plus performant. Et tu vois, Flo, qui est mon associé actuel et qui sera, je suis certain, le futur associé de mes prochaines entreprises, il a cette capacité, tu vois, à prendre la créativité que j'ai, qui est une bonne chose, et à savoir bien correctement la disposer, correctement l'orienter, tu vois. Et donc en gros, pour moi, l'association, ça me permet d'éviter de partir un peu en coucougnette et d'être très très efficace dans ce que je fais. Et tu vois, comme je suis quelqu'un d'émotif, bah les hauts, je les vis, les moments de succès, je les vis super bien. Les moments de doute, d'échec, bah j'ai tendance à moins bien les vivre. Et donc du coup, quand t'as quelqu'un qui est avec toi et qui se bataille avec toi, qui vit ces moments de down avec toi, bah je trouve que c'est beaucoup Enfin, moi, je préfère largement que quand tu es seul, tu vois, vraiment,
C'est
je me
vraiment
verrais même pas entreprendre seul, tu
ce que je comprends, c'est vraiment la complémentarité, deux profils différents mais qui se complètent plutôt que deux profils identiques. Donc, si tu as deux créatifs, la boîte elle explose, entre guillemets. Si tu as deux personnes qui
Oui,
ont la
c'est
même
sûr.
énergie, la même créativité, à un moment tout va partir partout et c'est un peu comme dans un couple, dans la vie de tous les jours, avec effectivement, il faut trouver quelqu'un de complémentaire. Et dans cette association que tu as vécue, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Tu dis heureusement là, heureusement que j'ai un associé et que je suis en train de vivre ça avec lui, que ce soit dans le bien ou dans les choses un peu plus compliquées.
Ouais, écoute, bah tu vois, l'année dernière, on a failli se faire rapprocher par un groupe, donc c'est-à-dire être intégré dans un groupe, et on a vécu ce qu'on appelle une phase de due diligence. Donc c'est-à-dire que en gros, le groupe décortique tous tes bilans, tes chiffres, etc., pour savoir comment t'es valorisé, etc. Et c'est une période qui est hyper complexe émotivement. Parce qu'en fait, t'es un peu défocus du business, parce que quand tu termines ta semaine de 50 heures dans ton taf, bah, tu recommences une seconde pour pouvoir enfin, travailler sur cette due diligence. Et c'était tellement violent émotionnellement que on a été comme deux frérots avec Flo, en se soutenant de fou et en se disant, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, on continue à avancer, alors que si moi j'avais été seul, j'aurais lâché au bout d'un mois à 100%, lui pareil, et le fait d'être ensemble et qu'on vive ça ensemble, ça nous a vraiment permis de pallier ça et d'aller de l'avant. Donc c'est le truc qui m'a le plus marqué. Alors c'est peut-être
Que vous vouliez
uniquement
vendre à
parlant pour...
l'époque?
Ouais, absolument.
Vous aviez une offre et là, ils avaient fait tout le process pour savoir si c'était, et à la fin, pourquoi vous n'avez pas vendu?
Écoute, donc ça a duré quand même quasiment 5 mois. La réalité, c'est que on a été, on a été accompagné par deux personnes qui sont devenues des associés chez Côme, qui en gros nous ont aidé à valoriser au mieux Côme, etc., et qui nous ont dit qu'en fait, et c'est bien parce que ça me permettra de t'amener sur la suite peut-être, c'est que plutôt que de se faire réintégrer à un groupe, bah, d'avoir cette logique pour Côme, parce qu'on est une boîte qui est hyper rentable, on fait 25% d'EBITDA, bon, pour ceux à qui ça parle, c'est une boîte qui est très saine. Et donc, ce qui fait qu'ils nous ont dit, les gars, plutôt que de vous intégrer, faites-le vous-même, quoi. Créez un groupe Côme, rachetez potentiellement des structures, intégrer des structures à vous et valorisez le groupe Côme. Et donc, c'est l'option qu'on a décidé de prendre. Donc on se fait accompagner, donc c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Là, on vient de terminer notre levée là il y a même pas une semaine. On a levé un fonds d'1 million, donc c'est pas énorme, mais c'est auprès de Business Angel. Et le but, c'est de réintégrer, de racheter des entreprises qui vont rejoindre le groupe Com, qui vont apporter une nouvelle verticale à ce qu'on propose. Donc tu vois, je te dis n'importe quoi, demain c'est potentiellement une boîte qui fait de la création de chartes graphiques, de logos, de sites internet qui est assez cohérent dans notre industrie. Et ben on va acheter cette entreprise pour intégrer le groupe. Donc ça, c'est la next step des prochaines années. Donc cette un nouveau game que je vais apprendre, tu vois, mais ça va être cool.
Donc là, vous avez levé des fonds, vous avez levé 1 million, c'est ça? Vous avez dilué combien de pourcents de la boîte pour 1 million?
Un peu plus de 10% parce qu'on est à 9 millions de valo.
D'accord. Bon, ça va, vous avez une grosse valo quand même pour la boîte, c'est une belle valo. Il vous reste quand même 90% à deux, c'est cool. Et donc là, votre next step, c'est le but, c'est d'arriver à trouver d'autres, ouais, soit d'autres médias ou vraiment d'autres activités qui vont venir compléter votre média.
Je pense que ce sera pas des médias, parce que tu sais, c'est vraiment Com, c'est l'agence. Donc ça va être des complémentarités à l'agence. Donc encore une fois, ça peut être des boîtes qui gèrent la partie community management. Ça peut être des boîtes qui font du gros marketing. Donc c'est comment est-ce que tu te sers de sujets créatifs pour aller chercher de la performance commerciale. Ça peut être des contenus 100% d'acquisition, ce qu'on fait pas exclusivement. Donc tu vois, vraiment des trucs à performance, des boîtes dans le social buying, donc c'est le ceux qui mettent de l'argent pour pouvoir diffuser tes capsules, enfin tes contenus, pardon. Donc tu vois, ça va être vraiment d'identifier, d'être hyper malin en se disant, il y a des verticales qu'on pourrait lancer, plutôt que de les lancer en interne, en recrutant des personnes, en travaillant pour pouvoir développer la verticale. Ben, on identifie des boîtes qui font potentiellement entre 500 et 1,5 million de chiffre d'affaires, donc à peu près 100 000 euros d'EBITDA, et tu les intègres à Com. Et le but pour les boîtes qui sont intégrées, c'est de se faire un peu d'argent, et c'est ensuite qu'on leur apporte de la notoriété, de la visibilité, de les faire scaler, et nous, ça permet de faire valoriser le groupe encore mieux, tu vois.
Et aujourd'hui, c'est quoi votre répartition dans votre boîte entre toi et Flo? C'est Florence, ça, ton associé, dans la structuration d'une boîte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a un qui est plus management, l'autre qui est plus apporteur d'affaires? Comment vous vivez, parce que tu as parlé de complémentarité dans le comportement, mais dans le business, comment vous fonctionnez?
Bah, en fait, ça a vachement évolué ces dernières années. Je vais te dire que les 3 premières années, on était très spécialisés. Moi, j'étais sur les sujets de communication commerciale et stratégique de la boîte. Quand Flo était vraiment sur la partie très technique, puisque encore une fois, il vient de l'audiovisuel, donc tous les monteurs, tous nos réalisateurs, c'est lui qui gérait toute cette partie. Et depuis un an, ça s'est vachement rééquilibré. Flo est devenu en vrai un entrepreneur hors pair. Donc stratégiquement, il a pris vraiment du galon et on bosse de la même manière sur la stratégie de la boîte. Et on a un peu un rôle de quasiment co-CEO, ou en tout cas, il a vraiment son rôle de cofondateur, c'est que toutes nos décisions, on les prend ensemble. Je suis encore la figure de la boîte au niveau managériel de notre middle management aussi, mais on a des rôles qui sont assez similaires, ce qui est top. Et là, on essaye, tu vois, parce qu'on a recruté des talents exceptionnels chez Com qui ont pris le lead sur leurs entités au niveau du management, donc ce qu'on appelle le middle management. Et nous, ça nous permet de nous défocus de l'opérationnel, tu vois, dans le dur à être opérationnel et être vraiment là pour développer la boîte grâce à, tu vois, cette stratégie de croissance externe, grâce à tous les moves stratégiques qu'on va faire et créatifs. Donc, tu vois, on est vraiment, on reste là où on est bon. C'est sur la partie entrepreneuriale et non opérationnelle. Et ça, on le bosse de la même manière et on le fait ensemble, quoi.
Ouais, c'est super intéressant comment vous avez mis tout ça en place. Et aujourd'hui, c'est quoi les grands En vrai, le gros challenge de Koum, là, c'est plus le rachat d'autres structures, c'est ça?
Ouais, exactement, c'est ça. Ça va vraiment
Et
être le next game là.
aujourd'hui, par rapport à ça, pourquoi vous êtes passé par la levée de fonds? C'est ça, c'est toujours une question qui m'intéresse, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont nous écouter également. Et cette question quand tu as une entreprise qui est saine, qui a des fonds, qu'est-ce qui la pousse à aller lever des fonds?
C'est une bonne question. En fait, c'est que tu peux aller chercher. En fait, c'est quand même un gros montant, 1 million. Même quand tu as une boîte, tu vois, comme nous, et on fait à peu près 4 millions, 25% d'EBITDA, ça fait pas mal de sous. Mais en fait, le fait d'avoir 1 million d'actifs financiers, ça te permet d'aller lever de la dette auprès des banques, donc d'aller chercher potentiellement 2 à 3 millions supplémentaires, ce que tu peux pas forcément faire avec ton EBITDA. Et donc, en fait, tout de suite, tu as 4 millions d'actifs potentiels pour pouvoir aller racheter des structures. Donc, en fait, tu vas beaucoup plus vite parce que si demain tu le fais qu'avec ton EBITDA, tu peux peut-être acheter une ou deux boîtes max, quand là, nous, potentiellement, dans les 5 prochaines années, on veut en réintégrer peut-être 5, 6, tu vois. Donc, dans cette logique vraiment d'aller chercher à vraiment créer un groupe, il faut avoir une vision qui, enfin, faut vraiment mettre en place un dispositif qui est à la hauteur de ton ambition. Et seul, c'est un peu lent. On aurait pu le faire, c'est un peu plus lent. Et vu que je te l'ai dit, on est plutôt du genre à vouloir aller assez vite et on a un peu la dalle. On s'est dit que c'était le bon moment d'aller chercher ce hack de croissance, tu vois. Donc en faisant cette petite levée, et puis tu vois, c'est des business angels, donc c'est des gens qu'on connaît. On a levé ça hyper rapidement. C'est pas comme quand tu fais rentrer un fonds d'investissement
Bien
qui
sûr.
regarde tout ce que tu fais tout le temps. Là, nous, on fait notre life de la même manière qu'avant. On a un peu de cash. Les mecs seront l'oseille quand on vendra plus tard. Et donc c'est parfait comme ça, tu vois.
Et où tu veux où tu voudrais être et dans 5 ans ou dans 10 ans avec déjà toi perso et avec Koum.
Écoute, je te dis alors plutôt 5 ans que 10, j'arrive à me projeter un peu plus. 5 ans, écoute, toujours à la tête du groupe, avec de nouvelles entités qui sont intégrées, avec des verticales qu'on aura lancées aussi en interne, en propre, sur lesquelles je pourrais mettre à la direction des personnes de Com, parce que les gens qui sont chez Com et qui sont fidèles au poste, j'ai envie de les, enfin de c'est pas de les remercier, c'est j'ai envie de leur mettre à dispo la possibilité de pouvoir intraprendre chez nous, donc monter leur propre structure au sein du groupe. Ça c'est la partie pro, et la partie perso c'est d'être un bon papa, puisque je vais être père d'une petite fille dans quelques semaines maintenant.
Wow,
Donc ça va être
félicitations.
ma merci beaucoup ça va être ma plus grosse priorité. Ça, je t'ai dit, je suis né et je vis dans un environnement familial qui est tellement idyllique que je veux apporter la même chose à ma fille, à mes prochains enfants. Donc ça va être je veux surtout pas que l'entrepreneuriat, qui est tellement intense, me fasse oublier les réalités de ce qui est le plus important, c'est-à-dire ta famille, tes proches, etc. Donc voilà, ça va être mon gros gros focus aussi.
Wow. C'est important quand on est entrepreneur. C'est vrai que moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et à moi, ils courent tellement derrière leur projet qu'ils ont, à la base, ils veulent être entrepreneurs aussi pour avoir cet équilibre, passer du temps avec leur famille. Et à la fin, ils passent encore moins de temps que quand ils étaient
Fou.
salariés.
De
Et
fou.
parce qu'ils sont toujours en train de travailler et en train de créer sur leur envoi. Ah, j'ai des réunions, laisse-moi tranquille ou autre. Et donc, ils font l'effet complètement inverse de ce qu'ils ont cherché et recherché
Ben
quand
de
ils ont
fou.
commencé.
Combien de personnes t'as, c'est sûr t'en as entendu, et moi aussi, des gens qui ont maintenant 50, 52 ans et qui se disent, waouh, en fait, ouais, le temps il est passé assez vite. Et tu sais, t'as toujours le côté genre, oui, mais attends juste un an de plus parce que je peux aller chercher ça. Et en fait, vu que ça, c'est mathématiquement un truc qui va toujours être interminable, il y a un moment où tu es obligé de te dire, attends, c'est quoi l'environnement dans lequel j'ai envie d'être avec ma famille et autres, et puis ton boulot, tu vas l'adapter en fonction de ça. Mais non pas l'inverse, parce que sinon c'est sûr que tu te fais bouffer. Donc voilà, ça je veux vraiment pas louper le coche.
C'est ton premier enfant. Ouais.
Ouais.
Ok. Bon
Ça va
courage.
toi, ma bête? J'ai senti le petit vécu derrière.
Non, j'en ai deux, j'en ai deux. Un de 6 ans et un de 3 ans. Et j'ai commencé. Alors, j'ai lancé ma boîte au moment où mon deuxième était dans le ventre de ma femme. Ouais. Donc, j'ai entrepris en étant papa. Et pour moi aussi, c'était très important d'avoir l'équilibre vie pro, vie perso. Je sais que moi, voilà, 17h. 17h30, j'ai fini ma journée, je suis avec les enfants, je fais, en fait, j'ai le tunnel 17h30, 20h, je suis présent jusqu'au coucher, et pour moi, c'est super important de suivre tout ça et d'être tout le temps avec eux pendant toute cette période-là.
Bah, t'as bien raison. Bravo à toi, je trouve ça très cool, vraiment.
On arrive sur la fin, là, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on est ensemble, ça passe super vite. Si j'avais le Harold qui avait 15 ans, et tu l'as devant toi et tu veux lui donner un enseignement, un partage. Qu'est-ce que tu lui partagerais?
Continue tes conneries, parce que je trouve que les conneries forgent les jeunes de 15 à 15 ans, et que tu vois, on a souvent, encore une fois, tellement mis en avant les personnes qui sont les premiers de la classe, qui sont très bons, et un peu, j'ai pas les bons termes, et on se fout un peu de ceux qui sont les derniers de la classe. Mais tu vois, je me rends compte, moi, à quel point, bah, le fait de pas avoir charbonné pendant les études et autres, ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, de faire des conneries, d'être avec mes potes, de me façonner, de me forger ma personnalité. Donc je pense qu'il faut pas démoniser quand tu fais des conneries, quand t'es pas encore le meilleur. Il faut justement réussir à s'en servir pour que ça réussisse à créer la personnalité de chacun. Donc voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont très très jeunes et qui se sentent pas à leur place au niveau des études, c'est pas grave, vraiment. Il faut juste le comprendre, l'intégrer, et puis savoir aussi pivoter. Mais voilà, savoir s'en faire une force, je trouve que c'est cool. Et on est tellement dans un environnement où on peut monter en compétence de manière autodidacte sur plein de sujets, que c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on est forcément destiné à pas avoir une super carrière, tu vois. Donc voilà, même si je pense que ça se démocratise de plus en plus, ça, voilà, moi je rajoute mon petit point de vue là-dessus, mais voilà.
Entièrement raison, tu as entièrement raison, et je partage exactement, et énormément de choses qu'on apprend surtout après l'école, et le but c'est d'entreprendre, d'essayer et de croire en ses rêves. Plus on va croire en ses rêves, plus on va entreprendre. Et
Clairement.
ok, super enseignement. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et que je voudrais partager ici?
Non, écoute, on a fait une belle passe chronologique jusqu'à maintenant, qui est encore une fois notre enjeu actuel dont on a un petit peu discuté. Donc écoute, non, franchement, très cool. Pour les personnes, si, peut-être un truc. Je me suis lancé sur YouTube en perso, parce que le média Harold, entre guillemets, je crée pas mal de contenu. Et c'est très dur, YouTube, vraiment, vraiment, vraiment. Et s'il y a des personnes qui veulent découvrir la page, c'est Harold Gardas. N'hésitez pas,
Yes, bien
il y a pas
sûr.
mal de bons contenus.
Je l'ai pas dit, mais bien sûr, on mettra. Je t'invite à m'écrire et me mettre tous les liens. Bien sûr, le lien de ton site et autres, mais on mettra donc ce YouTube-là. Et bien sûr, on partagera tous tes réseaux pour que vous allez lui donner de la force. Allez, donner de la
Beaucoup.
force à Harold, parce que effectivement, il a un média, mais quel que soit notre niveau, quand on se lance sur un nouveau réseau ou autre, il faut de la force, il faut beaucoup de force même.
Ah, c'est
Ok.
cool, ça fait plaisir.
Merci beaucoup pour cet échange, pour nous avoir partagé toute ta carrière et ton parcours, et surtout voir qu'à 31 ans, on peut avoir monter plusieurs boîtes, vendu des sociétés, lever des fonds, avoir un média, et donc la barrière de l'âge aussi n'est. Beaucoup de personnes disent, oh non, mais je suis jeune, j'ai encore le temps. Bah, quand tu as envie, tu peux. Donc merci vraiment pour cet échange. Bien sûr, je vous invite
Merci à toi.
à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous, donner de la force à ce nouveau média, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on a changé de branding, on va l'appeler Média. Mettez-moi en commentaire sur YouTube et ailleurs le nom pour ce média. Si vous avez un nom, une idée de nom, vous pourrez tester ça. Je compte sur vous pour me partager ça. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.